CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h, nous sommes le 16 février 2026 et c'est la 129e émission de Radio VCE. Autour de cette table, on retrouve Monique Couteau. De quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement intéressant qui est la sécurité sociale environnementale.
Parfait, Jean Barbare, c'est ton tour. De quoi vas-tu nous parler?
Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un sujet inflammable. Oui, un sujet incontournable. Encore plus, on va parler du travail des immigrés en France.
Parfait. Et Clément va peut-être encore une fois nous parler de légumes, mais on adore.
Oui, un légume de saison, le topinambour.
Le topinambour, Radio VCE, la 129e, c'est parti.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Alors, cette sécurité sociale environnementale, c'est l'objet d'un rapport qui a été fait dans le cadre de la Fondation de l'écologie politique, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, qui a été fondée en 2012, dont le siège se situe à Paris 19e, et le président de cette fondation est Cédric Villani. Deux auteurs, Paul Monjotin et Charles-Adrien Sens, ont travaillé sur cette question. Ils ont déjà publié « L'ère du temps libéré » aux éditions du Faubourg en 2024. Et en 2026, ils vont sortir un nouvel essai sur les questions alimentaires aux éditions de la rue de l'Échiquier.
Oui, alors le terme de sécurité sociale, ça renvoie à beaucoup de choses. Pourquoi parler de sécurité sociale en matière alimentaire?
Alors, on va y venir. En 2025, on a célébré les 80 ans de la sécurité sociale qui répondait aux urgences de l'époque. Vous pouvez réécouter l'émission qu'on avait faite il y a quelque temps et qui s'appelait « La sécurité sociale, c'est vital ». La sécurité sociale, elle s'appuyait sur l'idée que l'État-providence devait mettre les êtres humains à l'abri des aléas de l'existence. Donc, elle avait pour vocation de protéger les travailleurs et leurs familles contre les grands risques sociaux liés à l'économie industrielle, accidents du travail, maladies, vieillesse, famille, auxquels se sont ajoutés le chômage et, plus récemment, la perte d'autonomie. Il ne faut pas oublier, c'est très important, que le décret du 4 octobre 1945 qui créait la sécurité sociale venait unifier et généraliser des dynamiques anciennes. Les mutuelles ouvrières créées au 19e siècle, les premières caisses de retraite au début du 20e, les premières allocations familiales entre les deux guerres. L'article 1er de l'ordonnance du 4 octobre 1945 promettait d'étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques de prestations non prévus par les textes en vigueur. Eh bien, nous y sommes. L'accélération de la crise écologique au 21e siècle fait naître des risques sociaux d'une nature nouvelle. Le défi de l'État-providence écologique est donc double. Protéger les citoyens face aux conséquences du changement climatique d'une part et garantir l'acceptabilité sociale de la transition écologique d'autre part.
Oui, donc on voit bien l'intérêt de mutualiser les enjeux quand ça concerne la société entière. Mais donc concernant spécifiquement la satisfaction des conditions environnementales d'existence, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, le bien-être humain est étroitement déterminé par les conditions environnementales d'existence, de manière positive ou négative, à travers par exemple la pollution de l'air, responsable de plus de 20 000 décès par an en France, et dont l'impact varie considérablement en fonction de la qualité du logement et des espaces urbains. L'État-providence écologique a donc vocation à couvrir les besoins essentiels à toute condition de vie digne et qui recouvre notamment l'accès à l'eau, à une alimentation saine ou encore à un logement décent.
Oui, alors c'est vrai que les enjeux de sécurité alimentaire, c'est vital à la fois parce qu'il faut manger et il faut bien manger. Donc on voit au quotidien des produits qui sont régulièrement retirés de la vente pour des questions de sécurité sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Oui, alors en ce qui concerne l'alimentation, de nombreuses études scientifiques convergent pour souligner son rôle majeur comme déterminant de la santé. Les méfaits de la malnutrition ou de la malbouffe sont connus et étayés par beaucoup d'études. On estime que 11 millions de personnes meurent chaque année dans le monde du fait d'une mauvaise alimentation, responsable de maladies cardiovasculaires, de cancers, de diabète de type 2. Et la France n'est pas épargnée par l'essor de la malnutrition et l'explosion de l'obésité, par exemple, dont le coût a été évalué à 20 milliards d'euros par an, en particulier du fait de l'augmentation de la part des produits transformés qui concernent près de 80% des dépenses alimentaires des ménages, selon une étude de l'ANSES.
Oui, quand même.
Quand même, oui, c'est énorme. Récemment, une étude coordonnée par l'INSERM, le CNRS et une étude de l'Université Côte d'Azur a mis en exergue les risques sanitaires liés à la consommation de produits ultra transformés à travers une prise de poids rapide et importante, une dégradation de la santé cardio-métabolique, une perturbation hormonale ou encore l'altération de la fertilité masculine. Dans ce cadre, alors que plus d'un Français sur deux considère qu'il est trop cher de manger équilibré, la sécurité sociale du XXIe siècle pourrait se fixer comme objectif de favoriser l'accès du plus grand nombre à une alimentation saine à travers une nouvelle branche. En France, une trentaine de projets de territoire expérimentent déjà, avec le soutien des collectivités, des systèmes de sécurité sociale alimentaire à travers la mise en place de caisses locales de l'alimentation gérées de manière démocratique et reposant sur des cotisations citoyennes. Dans un autre registre, la ville de Strasbourg a expérimenté depuis novembre 2022 le droit à une alimentation saine pour les femmes enceintes afin de limiter leur exposition aux perturbateurs endocriniens. Un dispositif d'ordonnance verte permet aux femmes enceintes de recevoir des paniers de légumes bio et gratuits pour une durée de 2 à 7 mois et de bénéficier d'ateliers et de conseils contre les perturbateurs endocriniens. Ce qui permet aussi de tisser des liens avec les agriculteurs de proximité qui se sont engagés sur un chemin bio de santé publique. Ce dispositif bénéficie d'un cofinancement de la ville, mais aussi de l'ARS. Les résultats sont très positifs pour les femmes et pour l'ensemble des foyers concernés. Chaque collectivité doit s'emparer de ces questions et voir comment elle peut y répondre pour porter ensuite nationalement des expérimentations et des propositions à généraliser.
Et oui, parce que tout le monde doit avoir droit à ses topinambours. On en reparle tout à l'heure. La suite à la prochaine émission ?
Oui.
Eh bien, c'est parfait. Tout de suite, la chronique de Jean Barbard.
De tout et de rien avec Jean Barbard.
Mesdames, messieurs, à votre avis, qui fait tourner l'économie française quand personne ne se bouscule au portillon ? Indice, il bosse, il cotise, et pourtant on parle d'eux pour éviter de parler d'autre chose. Nicolas Dufourcq, DG de BPI France, l'a dit sans détour. Pas de réindustrialisation, pas de souveraineté économique, pas de reconquête nationale, sans les travailleurs étrangers. Et là, attention, on parle d'économie réelle, pas de slogan politique. Regardez autour de vous. Qui travaille dans le BTP quand les chantiers peinent à recruter ? Qui tient les hôpitaux, les EHPAD, les cuisines, les champs, les usines, en horaire décalé ? Spoiler, ce sont pas les éditeurs les listes de plateaux télé. Alors, le chiffre à un bal, justement. À votre avis, quelle part des métiers en tension en France dépend déjà directement de la main-d'œuvre immigrée ?
Pour les métiers en tension, oui, je sais pas, peut-être 1 sur 5. Hein.
Pardon ?
1 sur 5,
1 sur 5, ouais. Ok, 20% donc. Monique, Monique Couteau.
50%.
50%.
Je dirais plutôt 40, comme Monique.
40-45. 40-45, ok, vous êtes dans l'ordre d'idée. En réalité, c'est près d'un tiers. On commence avec le BTP, les CHR et la sécurité. Mais dans certains secteurs, comme l'aide à domicile, l'agriculture ou la logistique, on atteint parfois 80%. Ouais. Sans eux, ça ferme, littéralement. Et ce n'est pas une lubie française. Le Canada assume une immigration économique choisie, organisée et accompagnée administrativement. L'Allemagne déroule le tapis rouge aux travailleurs qualifiés avec guichet unique, apprentissage de la langue, intégration rapide. Résultat, moins de pénurie et plus de production. Les travailleurs restent, se plaisent, s'intègrent. Pendant ce temps-là, en France, on recrute, mais on accueille mal. On fait venir, mais on complique tout. Papier, logement, reconnaissance des diplômes. Bref, on veut la force de travail sans créer les conditions de la réussite. Et pourtant, c'est la clé. Parce qu'un travailleur bien accueilli, c'est un salarié stable, un cotisant, un parent intégré, un futur citoyen économique. Alors la souveraineté, ce n'est pas vivre entre soi. C'est avoir les bras, les compétences et les cerveaux pour produire chez nous ce dont on ne veut plus dépendre d'ailleurs. Conclusion, on peut continuer à faire semblant de ne pas voir la réalité, ou admettre une chose simple. Le travail des immigrés n'est pas un problème à gérer en réaction, c'est une solution à organiser par proaction.
Merci beaucoup Jean Barbard. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, hélas. On va peut-être passer sur un sujet...
Plus léger.
Plus léger, en tout cas appétissant. Tout de suite, on passe à table.
À table avec Clément Chassin.
Alors, Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des topinambours. Alors, quand on parle des topinambours, alors vous avez les gens comme moi qui vont vous dire « Ouais, c'est trop bien, tout ça. » Bon, je reviendrai dessus. Vous avez ma grand-mère qui va vous parler de la guerre, hein, puisque les topinambours, les rutabaga, voilà. Ça, elles ont été gavées jusqu'à l'écœurement, puisque ce n'était pas réquisitionné, et du coup, ils n'en peuvent plus. Et vous avez les gens qui vont chercher des façons plus ou moins polies de parler de, disons, problèmes intestinaux. Voilà, ça revient aussi avec les topinambours.
Souvent.
Souvent. Voilà, bon, alors, on va faire un petit peu d'histoire. Voilà, c'est encore un légume qui nous vient d'Amérique. Voilà, et quand on est arrivé en Amérique, on a rencontré donc les Amérindiens qui vivaient déjà là-bas et qui avaient des topinambours locaux. Et ils nous les ont offerts parce que c'était un symbole de paix. Voilà, l'époque où les Américains donnaient des symboles de paix. Voilà, donc ça nous est arrivé en 1607. Voilà, c'est formidable, ça s'est super bien implanté jusqu'à ce que... Je crois que je vais faire un jingle, Monsieur Parmentier.
Mais oui, c'est très bon.
Voilà, jusqu'à ce que la pomme de terre arrive et ça a supplanté le topinambour. Bon, voilà. Donc je disais... C'est formidable parce que c'est rustique, ça se cultive facilement, même dans des sols pauvres, ça se multiplie tout seul, ça résiste bien au froid, ça résiste aux maladies, aux ravageurs, ça peut monter jusqu'à 3 mètres, ça vous fait des très belles fleurs jaunes, parce que vous savez de quelle famille, à quelle famille ça appartient. C'est de la même famille que...
Les tournesols.
Les tournesols, exactement. Voilà, et en plus, ça a un petit goût de fond d'artichaut, qui fait tout son charme. Mais ça... Comment dire ça? Ça fait péter.
Mais non.
Voilà. Alors, parce que, contrairement à la pomme de terre, qui est... C'est plein d'amidon, la pomme de terre. Là, on n'a pas de la pomme de terre, mais de l'inuline à l'intérieur et qui n'est pas digérée par les enzymes intestinales. Donc, ça arrive dans les intestins, c'est digéré par les... C'est processé par les intestins. Voilà. Et du coup, bon, je voulais chercher, si vous voulez en savoir plus, c'est passionnant. Mais voilà. Bref, comment on fait avec? Alors, il y a des solutions. Mettre du bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson, la solution miracle à tout. Et une solution qu'on m'a donnée comme ça et que j'ai testée et qui marche vachement bien, c'est vous mettez une pomme de terre coupée dans l'eau de cuisson avec le topinambour. Parce que l'amidon de la pomme de terre va absorber et bloquer les effets néfastes de l'inuline. Et du jour au lendemain, moi qui avais effectivement des soucis avec les topinambours, eh ben, je les digère très bien. Voilà, donc faites des essais chez vous, vous verrez si vous les digérez très bien. Et du coup, quand ça marche... C'est super.
Ah, mais merci.
Et là,
pour
tu peux dire merci, monsieur Parmentier, cette fois.
Aussi. Voilà, non, mais il est toujours, il est partout.
Parce qu'avant, moi, la seule technique que j'avais trouvée, c'était de mettre que la patate et pas la topinambour.
C'est ça, voilà. Et ben non, là, on ça récupère le topinambour, voilà. Du coup, c'est digeste, c'est très bon, ça pousse tout seul, voilà. Eh, je disais que c'était formidable, j'avais pas raison. Et en plus, il y a plein de recettes. Alors moi, je vais vous en donner une que je trouve assez simple et qui permet de bien profiter de ce petit goût d'artichaut. Donc, on le précuit hein, avec les patates, tout ce qu'il faut. Voilà. Et après, on fait un risotto de topinambour. Donc, on fait revenir les échalotes dans un peu d'huile d'olive, doucement. On ajoute le riz, quelques minutes, tout ça. On ajoute un petit peu de vin blanc pour déglacer. Et après, là, on ajoute juste les topinambours. Du riz, des topinambours, les échalotes, éventuellement quelques petits champignons. Et voilà, et on ajoute au fur et à mesure un peu de bouillon, tout ça. Voilà.
Très bien.
Un tout bête risotto, mais avec des topinambours. Ça a un goût de fond d'artichaut, c'est génial. Et c'est rapide, hein, finalement, juste le temps de cuire le riz, voilà. Et c'est délicieux. Redécouvrez le topinambour, ouais. Ça vaut le coup.
Mais c'est vrai que c'est des légumes qu'on redécouvre petit à petit. Bon, moi, je sais que feu ma grand-mère pouvait pas supporter l'évocation des topinambours, mais c'est des souvenirs de guerre. Hein.
Oui.
Ah oui, et puis donc ça revient bien. Eh ben, merci beaucoup pour ces anecdotes. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio VCE. C'était Jonathan Bord avec toute l'équipe. Au revoir.